Une production Binge Audio, évidemment.
Le 13 septembre, la jeune kurde Mahsa Amini a été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs parce qu'elle n'aurait pas porté son hijab correctement. Correctement, entre guillemets, bien sûr. Elle meurt peu après son arrestation, d'une maladie selon la police, mais ses proches dénoncent des faits de violence et de maltraitance. Sa mort a depuis déclenché la colère dans un pays déjà mobilisé depuis plusieurs années. 6 semaines après les faits, au jour où nous enregistrons cette conversation, la mobilisation se poursuit en Iran. Avec une participation très importante des femmes, que l'on voit sur les images des protestations, retirer leur foulard et le brûler. La répression des manifestations a fait, à l'heure où nous parlons, au moins 215 morts, selon l'ONG Iran Human Rights. Depuis le 14 septembre, moi, je reçois des DM d'activistes, toujours très polis mais déterminés, qui me demandent de partager et de prendre position sur les réseaux sociaux. Je vais être sincère, je me sentais un peu mal à l'aise, je me sentais un peu hypocrite, de juste partager une story, afficher un soutien, et puis ensuite continuer ma vie, continuer à publier des photos de mon chien, de mes potes, dans la foulée. Il y avait selon moi quelque chose de presque indécent. Je trouvais que juste partager un contenu n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Mais si tout le monde faisait comme moi, après, je me suis dit, l'information ne se diffuserait plus du tout. Et puis, je me suis souvenue aussi du controversé Blackout Tuesday. Souvenez-vous, c'était une action coordonnée en juin 2020. Chacun était invité à poster un carré noir sur Insta pour dénoncer les violences policières. Cette action, elle avait ensuite fait parler d'elle, mais pas forcément bien. Certains avaient jugé qu'elle permettait de se donner bonne conscience facilement, et puis ensuite de ne pas agir du tout. Alors que faire ? Peut-on faire quelque chose, nous, à notre petit niveau, pour soutenir les Iraniennes ? Et si oui, quoi ? Derrière cette simple question de faire ou pas une story se cache une autre question, pas du tout anodine, très importante. Celle de notre impuissance, ou au contraire, celle de notre puissance. À l'échelle individuelle, est-ce que tout à chacun peut avoir un impact politique ? Moi, je veux croire que oui. Alors, bienvenue dans cette conversation. Nous allons essayer de l'utiliser au mieux, notre capacité d'impact.
Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable.
On peut plus rien dire.
Vraiment, c'est n'importe quoi.
On peut plus rien dire.
Et la prochaine fois, ça sera quoi ?
On peut plus rien dire.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
On peut plus rien dire.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine et avec moi à mes côtés pour parler ensemble de ce beau mais difficile sujet. J'ai la joie de recevoir Léane Alestra. Léane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes activiste et autrice du podcast et compte féministe Mécréante. Merci beaucoup d'être avec nous. Assa Albagheri, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes sémiologue à l'université de Cergy et spécialiste du cinéma iranien, merci aussi. Et enfin, Suzanne Azmaye, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes romancière et autrice de L'Interrogatoire. La première question que j'ai envie de vous poser, peut-être à vous, Assa Albagheri, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Iran ? Comment on expliquerait la situation à quelqu'un qui n'a pas trop suivi rapidement ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une révolution des femmes ?
Oui, on peut bien sûr dire que c'est une révolution des femmes, mais suivie heureusement par des hommes. En effet, quand Mahsa Jina Amini a été tuée, en fait, par les ordres, enfin par l'ordre de la police des mœurs en Iran, parce qu'elle avait mal mis son voile, ça a fait vraiment la colère des Iraniens parce que c'était une jeune femme de 22 ans. Elle était kurde, donc elle était dans la capitale iranienne en tant que touriste. Et en plus, en fait, la manière dont elle portait le voile, c'était pas quelque chose de vraiment très extravagant. C'est juste parce que je pense qu'elle était pas au bon moment. Elle savait pas les codes urbaines de Téhéran. Et donc, ça a fait vraiment la colère des Iraniens et notamment des jeunes femmes. Et bah, depuis, en fait, depuis plus d'un mois, ça ne s'arrête pas. Ce ne sont pas vraiment ce qu'on peut appeler des manifestations, mais ce sont des petites, beaucoup de gens, mais très éparpillés, qui vont enlever leur voile, de la génération Z notamment. Et bien évidemment, en fait... on dit que c'est une révolution, d'une certaine manière, un soulèvement de femmes, parce que ce sont vraiment des femmes de la génération Z qui sont au devant de la scène contestataire, quasiment pour une des rares fois de l'histoire iranienne.
Est-ce qu'on sait d'où vient le slogan « Femme, vie, liberté » qu'elles entonnent souvent ?
En fait, c'est un slogan des femmes kurdes qui ont été là il y a quelques années de ça. Comme en fait Mahsa était kurde, le jour de son enterrement, en fait, tout le monde a pris ce slogan des femmes kurdes qui n'est pas originaire d'Iran. D'ailleurs, en fait, c'est des Kurdes turcs qui ont mis en place ce slogan-là. Et du coup, tout le monde a commencé à chanter ce slogan. Comme pour célébrer quelque chose, en fait. C'est comme si, sans le savoir, en fait, toute cette population kurde qui a été toujours sous pression en Iran, mais depuis toujours, en fait, a décidé d'un coup de s'unir avec toutes les autres femmes kurdes du monde pour crier contre cette injustice iranienne. Et ça a été repris très vite, en fait, sur les réseaux sociaux. Et ça a été... vraiment, en fait, propagé dans toutes les rues du pays. Et c'est un slogan extrêmement intéressant parce que, certes, il est féministe, mais en fait, il est universel. Et c'est pour cela qu'en fait, partout dans le monde, ça parle aux gens. Femme, vie, liberté, ça ne parle pas que de la femme. Et c'est vrai que c'est un slogan kurde, des combattantes kurdes. Néanmoins, en fait... ça va prendre une globalité contre toute l'oppression qui a été au corps des femmes tout au long des siècles.
Est-ce que cette révolution, selon vous, a une... Alors, je sais qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais a une chance d'aboutir à quelque chose, Suzanne ?
Moi, j'ai envie de penser que oui. Après, quand on se penche un petit peu sur l'histoire iranienne récente, on devient un peu pessimiste, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu un soulèvement dans le pays pour toutes les raisons du monde, hein, notamment par rapport au pouvoir d'achat, l'oppression, aux oppositions politiques, ça a toujours été réprimé et il n'y a pas eu le changement espéré. Mais peut-être que cette fois, parce que justement, ce sont les femmes et qu'elles n'ont l'air d'avoir plus peur de rien, on peut espérer que ce mouvement vraiment sociétal, féminin, puisse aboutir au moins, pas forcément à un renversement du régime, même si ce serait très bien, mais au moins à un infléchissement de la politique des mœurs, de toute cette dureté et rigidité qui est imposée aux femmes et aux jeunes aussi beaucoup dans le pays.
Alors, de cette révolution en Iran, nous parviennent beaucoup d'images, des images de femmes extrêmement courageuses qui brûlent leur voile et qui dansent autour de feux. Ce sont des images extrêmement fortes que la droite et l'extrême droite n'a pas attendu très longtemps pour instrumentaliser et pour orienter le débat autour de la question du voile, mais en France. On a par exemple Raphaël Enthoven qui a loué le courage de ces femmes sur Twitter. Jusque-là, on est d'accord avec lui. Et puis ensuite, il a donc loué le courage de ces femmes qu'il juge sublime, estimant qu'elles se dévêtissaient et emmerdaient un véritable patriarcat par opposition au féminisme qui font, selon lui sans doute, des caprices. Ce qui est intéressant, c'est que tout en louant leur courage, il continue de les objectifier sexuellement. Léane Alestra, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, mais exactement. En fait, c'était très intéressant de voir que dans toutes les réactions médiatiques, déjà, il y a tout ce qui est contexte géopolitique qui a été complètement gommé. Il faut savoir que là, actuellement, on est en pleine guerre en Europe, avec notamment donc la Russie qui a envahi l'Ukraine. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que le régime d'Iran s'est allié et fourni des armes genre à la guerre en Ukraine, et donc ça renforce l'inflation en plus en Iran. Et enfin, il y a vraiment tout un contexte géopolitique qui était hyper intéressant, et ça était complètement balayé pour venir à quelque chose de très simpliste, de dire que les femmes en Iran veulent juste avoir les cheveux au vent, alors que pas du tout. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça, et leur mobilisation et leur politisation, elle ne s'arrête pas là, elle est beaucoup plus forte que ça, quoi.
Que la simple question de la religion. Est-ce qu'on peut dire que Mahsa Amini, alors la comparaison est un peu tragique, mais c'est un peu la nouvelle George Floyd ?
Oui, symboliquement, en fait, tout à fait. C'est, malheureusement, ce sont des symboles tristes, mais qui deviennent aussi, en fait, des porte-drapeaux après leur mort, en fait, des grands mouvements. Donc, oui, c'est comparable d'une certaine manière, et notamment aussi parce que cette histoire américaine aussi a été portée par la jeune génération, la génération Z, beaucoup les jeunes filles. Et donc, c'est exactement la même chose qui se passe en Iran, parce que, en fait, comme je disais, c'est en cela que ce mouvement iranien est intéressant, que ça parle à tout le monde, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, tout soulèvement, en fait, se fera par la jeune génération Z qui en a marre, en fait, du système patriarcat, qui en a marre de toute oppression, que ça soit aux États-Unis ou en Iran. Et c'est en cela vraiment que c'est comparable.
Suzanne ?
Oui, je pense que le parallèle dans le fait qu'il y a donc des populations un peu victimes systémiques, donc les Noirs aux États-Unis, les femmes en Iran sont les minorités un peu opprimées face à un pouvoir légitime, la police dans les deux cas, la police aux États-Unis et la police des mœurs, la police religieuse en Iran. Et dans les deux cas, on a effectivement une personne qui meurt de manière totalement injuste et disproportionnée. Donc le parallèle pour moi est évident, même si évidemment les sujets, les thématiques que ne sont pas les mêmes.
J'aimerais qu'on aborde un sujet qui est peut-être un peu délicat, mais si on ne peut pas en parler ici, entre nous, si on ne peut plus rien dire, je pense qu'on pourra en parler nulle part, c'est revenir sur cette question autour du voile. Parce que la droite nous accuse, nous, alors je dis nous parce que je me mets dedans, les néo-féministes, d'être quelque part complices des oppresseurs des Iraniennes, parce que on soutient la liberté des femmes à porter le voile en France. Est-ce que cette accusation... posons-nous cette question. Est-ce que soutenir la liberté des femmes en France à porter le voile, c'est quelque part être complice de ces oppresseurs en Iran ? Qu'est-ce que vous en pensez, Léane ?
Alors déjà, c'est très intéressant parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Masha était du coup kurde et donc c'est une minorité en Iran qui est victime de racisme d'État selon ce qu'on peut lire. Et donc c'est très intéressant de voir qu'une lutte qui est féministe et qui est aussi antiraciste qui est menée en Iran est utilisée en France pour servir un agenda raciste contre les femmes musulmanes qui sont aussi une communauté qui est opprimée en France. Et du coup, je trouve que c'est aussi intéressant de voir à quel point les gens ne sont pas capables de déjà balayer devant leur porte. Parce que je rappelle qu'en France, selon un sondage qui est paru en 2022, un quart des hommes en France exigent un droit de tenue sur leur partenaire en France en 2022.
Non.
Donc c'est quand même hyper intéressant de voir à quel point il y a un deux poids, deux mesures qui s'établit.
Sur cette question du voile, c'est quelque chose qui est intéressant dans votre livre, Suzanne Azmaye, que j'ai trouvé très très honnête et très intéressant. Votre personnage principal, donc c'est une jeune femme, une jeune femme d'origine iranienne, une jeune française qui part en vacances pour un mariage en Israël et qui se fait arrêter à la douane et qui scoltine des heures et des heures d'interrogatoire. Et donc quand elle est dans la salle d'attente, elle échange brièvement donc avec une autre femme voilée. Et face à cette femme, elle dit ressentir, enfin dans sa tête, elle vous expliquer qu'elle ressent une hostilité qu'elle s'en veut de ressentir. J'aimerais qu'on s'arrête sur cet extrait. Et attention, je veux pas, c'est pas un piège ou c'est pas pour rentrer dans un débat qui vous mettrait au pilori. Moi, je comprends que quand on a grandi ou quand on est originaire d'un pays où le voile est obligatoire, ça puisse faire quelque chose quand on voit une femme qui choisit de se voiler. Je le comprends. Et ce qui est important, c'est que peut-être ça peut faire quelque chose, mais qu'on reste dans le respect face à cette femme. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette hostilité qu'elle s'en veut de ressentir ?
Oui, en tout cas, le personnage, ça fait un petit peu aussi écho à moi. Il ressent une forme d'embarras, c'est vrai, vis-à-vis du voile. Dans la mesure où dans les pays, en tout cas, de culture musulmane, ça reste quand même souvent un attribut qu'on impose aux femmes, mais qui s'intègre dans tout un corpus quand même assez patriarcal. Et on considère que le corps de la femme a vocation à être caché, dissimulé, pour ne pas susciter le désir des hommes. Donc, à partir du moment en plus où le voile a été imposé dès un très jeune âge aux femmes en Iran, je crois 7 ou 9 ans. Voilà, on peut, les jeunes filles vont à l'école avec un voile et c'est vraiment quelque chose qu'elles doivent se coltiner toute leur vie. Et du coup, le choix délibéré de se voiler paraît toujours un peu étrange. Mais évidemment, il n'est pas question de juger la foi personnelle, les raisons individuelles, spirituelles qui peuvent pousser les femmes à choisir de se voiler, mais ça suscite quand même un questionnement. À titre personnel, je me demande souvent pourquoi ce choix et est-ce qu'on peut vraiment faire abstraction de toutes les problématiques sexistes qui souvent s'agrègent au voile, qui n'est pas un tissu complètement anodin. Et je pense que c'est assez sain finalement de s'interroger sur le voile de manière tout à fait calme et pas polémique, ni dans le cadre d'une récupération politique, en se demandant finalement pourquoi certaines femmes se voilent. Est-ce que le voile est complètement anodin? Est-ce qu'il apporte avec lui d'autres problématiques, et je pense qu'on peut tout à fait en discuter de manière sereine, sans tomber dans des polémiques contre les femmes.
Asal ?
Il faut quand même vraiment repréciser que c'est pas un soulèvement contre le voile hein, en Iran. Vraiment, ça c'est quelque chose d'important. En fait, le voile iranien, c'est l'instrument en fait du patriarcat et du système théocratique politique. Donc c'est l'instrument par excellence de cette politique théocratique iranienne. Donc si les femmes brûlent le voile, ce n'est pas pour dire je suis contre le voile en général ou je suis contre la religion en général. Il faut savoir que la société iranienne est une société religieuse, on ne peut pas le nier. On a énormément de gens qui croient, malheureusement à cause des problèmes que la République islamique a créés, en fait on ne peut pas avoir des vraies études sociologiques, donc on ne peut pas savoir exactement combien de personnes sont vraiment croyants ou ne sont pas croyants. Néanmoins, on sait très bien que l'Iran a une population assez religieuse. On ne parle pas d'élite. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de ma famille, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est cette population-là. Et on voit bien ce qui est extrêmement intéressant dans les rues, c'est qu'on a des femmes, en fait, qui enlèvent le voile, mais on a des femmes voilées qui sont en train de faire les manifestations, qui sont à côté, en fait, des autres filles qui ne sont pas voilées. On a des femmes qui croient en leur voile individuel, en fait, en tant que pratique religieuse, mais qui viennent, notamment, il y avait la mère d'un jeune qui a été tué les années précédentes, Sattar Beheshti, qui est, entre guillemets, un de nos martyrs maintenant, et elle est venue, en fait, et elle est voilée, c'est une femme voilée, elle a enlevé le voile juste pour dire « je suis avec ce mouvement-là ». Donc, c'est pour dire qu'en fait, on est pour l'histoire, le soulèvement actuel iranien, c'est pour dire en fait, on en a marre qu'on nous dise en fait comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut porter, qui porte quoi, avec qui vous marchez, qui est-ce que vous embrassez, etc. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça, c'est femme, vie, liberté. C'est d'avoir en fait le choix de porter ce qu'on veut, comme on veut, et puis décider après.
Comment on vit aujourd'hui à Téhéran, peut-être la vie quotidienne au jour le jour? Est-ce qu'on a une idée, enfin, avant les soulèvements, enfin, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on a le droit de tenir son petit ami ou sa petite amie par la main? Est-ce qu'on a le droit de boire un verre en terrasse le soir? Juste pour s'imaginer à quoi ça représente, à quoi ça ressemble.
Si je peux réagir, moi justement j'ai une cousine que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, qui était venue en vacances en France, et ce qu'elle me disait c'est que non, en Iran tout est caché en fait, tout se passe dans des sortes de soirées secrètes à la maison, où là on peut inviter des gens, boire de l'alcool en contrebande et avoir une vie sentimentale, mais à partir du moment où on franchit la porte de la maison, on se retrouve dans la rue, là on peut être interrogé par n'importe quel policier qui passe et on doit rendre des compte, qui est la personne avec qui on marche dans la rue, est-ce que c'est quelqu'un de licite ou d'illicite. On ne peut pas avoir de petite amie, on ne peut pas s'asseoir sur un banc à côté d'un garçon. Il faut justifier que c'est soit un frère, soit quelqu'un avec qui on a un lien légitime. Et j'avais aussi une autre cousine, par exemple, qui, quand elle avait commencé à sortir avec celui qui allait devenir son mari, mais elle n'était pas encore tout à fait sûre que c'était la bonne personne, elle portait une sorte de fausse alliance pour faire croire qu'ils étaient mariés, alors que c'était pas le cas. Donc, il y a une sorte d'hypocrisie permanente. Je pense qu'effectivement, c'est pas si facile d'être un jeune en Iran. Il y a un mensonge permanent
Léana Lestra, vous vouliez réagir ?
Moi, je voulais revenir sur le port du foulard en France, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, on a quand même, on peut pas détacher en fait ce regard et cette question de la question coloniale, notamment parce qu'il y a eu en Algérie des cérémonies de dévoilement où on forçait les femmes à retirer le foulard, et en fait, on est complètement imprégné de cette période coloniale et on n'en est pas du tout sorti en France, et donc il y a un regard qui est posé sur ces femmes qui est très orientaliste. Donc ça va être de les sursexualiser et en même temps de présenter tous les hommes comme par nature beaucoup plus violents que les hommes européens. Et donc, par exemple, j'ai noté qu'on ne parlait très très peu du fait que les hommes iraniens ont rejoint très vite la mobilisation et qu'ils ont lutté avec les femmes iraniennes. Parce qu'il y a toujours cette volonté et ce regard orientaliste en France de dire « Regardez ces femmes qui sont martyrs de tous les hommes en Iran et que nous, on doit intervenir pour les sauver ». Et en fait, c'est ça dont il faut faire très attention. Et d'ailleurs, on remarquera qu'on va culpabiliser les femmes en France qui portent le foulard, mais on ne va jamais nous dire « Oui, pourquoi est-ce que vous vous mariez alors que dans le monde il y a une femme sur cinq qui est mariée avant 18 ans ?»
C'était très très juste, c'était une analogie que vous faisiez dans votre billet de blog, je me permets juste de donner un peu de contexte, vous disiez on dit jamais à une femme qui s'est mariée de son plein gré en vous mariant vous soutenez les mariages forcés, et j'étais ah mais oui c'est vrai, enfin jamais on va commenter même sous une photo de mariage sur les réseaux sociaux, savez-vous combien de petites filles sont mariées de force, etc. Et c'est vrai, ça permet de se rendre compte un peu de l'absurdité de cette culpabilisation des femmes en France.
C'est vrai que vraiment, j'insiste sur cette question-là, qu'en France, on n'a pas fait un travail de mémoire. Il y a très peu de gens qui sont au courant des cérémonies de dévoilement qui consistaient à envoyer des femmes françaises en Algérie dévoilées de force devant tout le monde et de manière publique, donc de façon extrêmement humiliante, les Algériennes dans un désir de les soumettre en fait à leur paradigme. Et c'était aussi une façon de contrôler la tenue des femmes et de contrôler en fait comment les femmes s'habillent. Et en France, on a vraiment, dans une moindre mesure que l'Iran, hein, il ne s'agit pas de comparer, mais on a aussi un contrôle qui est exercé sur la tenue des femmes très régulièrement, tous les ans. On a des débats sur oui ou pas le crop top chez les filles au lycée, oui ou pas telle tenue chez les lycéennes, rarement chez les lycéens. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, les garçons avaient des pantalons où on voyait tous leurs caleçons et ils ne se faisaient jamais embêter. Donc, il y a aussi une hypocrisie en France et vraiment cette façon de placer les hommes français comme étant irréprochables. Ça dessert aussi les causes féministes en France, parce qu'on est en mode, on nous dit tout le temps « Ah mais vous vous plaignez alors que vous, vous êtes tellement privilégiés, regardez les femmes iraniennes ». Mais en fait, c'est pas un jeu de qui a le plus de problèmes. On doit pouvoir se réjouir des avancées des unes et des autres partout dans le monde.
Tout à fait. Azal Bagheri,
c'est intéressant en fait ce que vous dites, parce qu'en fait, dans les années 30 en Iran, le père du Shah, donc du roi iranien, Reza Shah, en fait, avait fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il avait imposé en fait à la population de changer leurs vêtements, donc de devenir européens, parce qu'il voulait faire comme Atatürk en Turquie, et donc en fait il a obligé les femmes à enlever le voile, et en fait il avait envoyé ses soldats dans les rues, et notamment en fait je me rappelle très bien de nos grand-mères qui nous disaient qu'à cette époque-là dans les villages etc. elles ne sortaient plus de chez elles parce que sans le voile en fait elles se sentaient nues, et donc vraiment en fait cette histoire de patriarcat qui veut toujours en fait s'emparer du corps de la femme, ça a toujours été une histoire particulière en Iran, mais partout dans le monde. Et finalement, ces femmes-là ne sont pas sorties de chez elles tellement longtemps que Reza Shah a été obligé en fait de revenir sur sa loi. Voyez, et plusieurs années plus tard, en 79, quelqu'un arrive et il dit maintenant en fait tout le monde doit avoir le voile. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, personne ne pensait en Iran pendant la révolution iranienne, parce qu'on pensait qu'on allait avoir une démocratie, égalité des hommes et des femmes, égalité salariale, etc. Et d'un coup, trois semaines après son arrivée, l'ayatollah Khomeini, il dit maintenant, port de voile pour tout le monde. Et en fait, il y a eu des milliers, des milliers, des milliers de femmes, en fait, qui sont descendues dans les rues au mois de mars 79 pour dire on ne veut pas cette loi, parce que ces femmes-là avaient fait la révolution. C'était des féministes, etc. Il y avait des étrangères aussi, il y avait Kate Miller, il y a un film aussi qui est sorti là-dessus. Et en fait, mais ça n'a pas marché, parce que les hommes n'ont pas suivi. Il n'y avait aucun homme, en fait, dans ces manifestations en 79. Et c'est ça qui est réjouissant, parce qu'on voit 43 ans plus tard comment les hommes, en fait, suivent les femmes, parce que l'oppression sur le corps des femmes, c'est l'oppression sur toute une génération, c'est pas que les femmes.
Vous avez bien raison, je suis contrainte de vous interrompre une petite minute, on se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Je profite d'avoir un petit instant de votre attention pour vous dire que si vous aimez cette conversation, n'hésitez pas à venir la prolonger en suivant Binge Audio sur Instagram. Nous sommes toujours en compagnie de Suzanne Azmaye, Léane Alestra, Assal Bagheri et nous sommes en train de nous demander comment nous pouvons soutenir les Iraniennes et leur révolution. Alors, je me tourne vers vous, Suzanne Azmaye, peut-être pour se poser la question pendant un instant de que peut la diaspora. Dans votre roman, il y a un passage qui est assez touchant où votre héroïne, en 2019, raconte vouloir soutenir le soulèvement populaire qui a eu lieu en Iran suite à la réélection truquée de l'ultra-conservateur Ahmadinejad. Et donc, elle poste une photo sur Facebook, comme c'était un peu la mode à l'époque d'être sur Facebook. Elle poste une photo avec écrit « Where is my vote ?» Puis après, elle se dit « Bon, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus, en fait ?» Parlez-nous de peut-être cette impuissance qu'elle a ressentie, ou enfin, comment ça se passe ?
Oui, c'est exactement ça, en fait, quand on est à l'étranger, qu'on soit iranien ou pas, finalement, et on a envie de rejoindre la cause et de faire quelque chose, on se retrouve assez vite coincé dans, qu'est-ce que je fais ? Et effectivement, c'est important, je pense que relayer l'information, c'est toujours utile. Pour rejoindre ce que vous disiez au début de l'émission, c'est sûr qu'entre ne pas poster et poster, c'est toujours mieux de poster, de montrer qu'au moins, le régime cherche à étouffer la répression, à bloquer Internet et tous les réseaux sociaux, justement, pour que ça ne soit pas diffusé, pour que le monde ne sache pas. Donc, plus on informe, plus on parle, plus on prend la parole, plus finalement on affaiblit aussi la crédibilité du régime à l'international et c'est jamais neutre en fait. Un régime politique qui est discrédité sur le plan international, qui passe pour un régime à juste titre qui ne respecte pas les droits de l'homme, les droits de la femme, c'est toujours important de le dire. Et ce qu'on peut faire, évidemment, c'est écrire, prendre la parole, manifester aussi. Il y a beaucoup de manifestations qui ont lieu partout dans le monde et c'est vrai que c'est important aussi d'être là. Il y a eu des manifestations devant l'ambassade d'Iran, c'est important de participer pour montrer l'ampleur de l'opposition et du fait que ça ne laisse pas indifférent ce qui se passe en Iran. Après, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un impact, disons, très tangible ou concret pour renverser très concrètement le régime ou pour empêcher les morts. Là, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu démunis. Donc là, on bute toujours un petit peu sur les mêmes questions.
On a vu, il y a une ribambelle d'actrices françaises qui ont posté une vidéo avec le hashtag Air for Freedom, où elle se coupait une mèche de cheveux. Il y a une députée suédoise aussi au Parlement qui s'est coupée les cheveux lors d'un discours à Strasbourg, en signe de solidarité avec les manifestants et les manifestantes. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'action à Assal Bagheri?
Moi, je pense qu'en fait, toute action qui porte en fait la voix des Iraniennes et des Iraniens à l'extérieur, c'est important et ça a son poids. C'est bien évidemment en fait le fait que, par exemple, on a autant d'actrices françaises connues dans le monde et qui se coupent les cheveux dans une vidéo, ne va pas impacter directement en fait cette génération Z iranienne. Il se peut même qu'en fait les gamins de 15-16 ans qui sont dans la rue ne connaissent même pas en fait ces actrices iraniennes, notamment aussi parce qu'en fait la génération Z dans le monde en fait a des caractéristiques particulières, que ce soit l'Iran ou ailleurs, on n'a pas trop de modèles et idoles. Vous savez, ce n'est pas comme notre génération. Et donc, du coup, en cela, ça ne va rien impacter à l'intérieur. Mais c'est à l'extérieur.
Je reviens sur ce que vous venez de dire. Comment ça, ils n'ont pas trop de modèles ou d'idoles?
En fait, vous savez, ce sont des jeunes jeunes filles en fait anodines qui sont dans les rues, mais elles suivent personne. Il n'y a aucune actrice, par exemple, qui leur donne un modèle particulier. Elles font en fait un mix de différentes choses qu'elles aiment en fait pour ressembler à personne d'autre finalement. Donc, pour vous dire que c'est choses qu'on fait à l'extérieur, ça va les soutenir, mais ça va porter leur voix en fait à l'extérieur. Ça va faire en sorte que dans les médias, ça s'estompe pas, parce que c'est ça aussi la peur qu'on a, c'est-à-dire que ces jeunes-là, Mars, Gina ou les autres filles qui sont mortes, les autres garçons qui sont morts, en fait, qui soient morts pour rien. Donc, c'est pour cela que c'est important. Et moi, je pense que quand les artistes font des choses, si beaucoup de gens font des vidéos, des performances, des choses de ce genre, il faudrait que ça impacte en fait la communauté internationale, que les politiciens derrière en fait suivent et comprennent qu'en fait c'est un mouvement global.
Oui, ce qui est intéressant en fait, avec cette réflexion autour de comment prendre position sur les réseaux sociaux, c'est que ça fait réfléchir aussi à aujourd'hui comment se créent les rapports de force en politique. Et on sait bien que si demain on fait une vidéo où on se coupe les cheveux, ça va pas empêcher peut-être la répression, enfin ça va pas empêcher, c'est sûr, la répression ou les arrestations. Mais si on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à le faire, ça va peser peut-être sur le ministère des Affaires étrangères en France en se disant « Ah, il y a une question d'opinion, etc. » Et donc peut-être que ça va... C'est un jeu de billard à 15 000 bandes, mais qui est une question de construction de rapports de force. Non, est-ce que j'ai bien compris, à votre avis, l'enjeu, Suzanne Azmaye?
Oui, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que ça se joue à plusieurs niveaux et que pour faire pression à l'international, sur les politiques, sur les rapports aussi entre les différentes diplomaties entre elles, l'opinion publique peut influer là-dessus, mais de la même manière que la question peut se poser de manière très différente sur l'écologie. Enfin, les actions de chacun individuellement ne vont pas peut-être limiter à ce point le réchauffement climatique, mais ça va créer un climat, un contexte qui va ensuite faire pression sur les décideurs pour changer les choses par ce biais un peu plus intermédiaire indirect.
Je reviens sur l'exemple de Blackout Tuesday que j'avais donné en introduction, qui avait été un peu controversé en disant qu'il y avait aussi une part de narcissisme ou de donner une bonne conscience à pas cher avec ce type de militantisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Léana Lestra ?
Moi, je pense que si ça ne s'accompagne pas d'une réflexion autour du sujet, ça a peu d'impact, même puisque c'est extrêmement éphémère. On est dans une société de l'image où une information en chasse une, etc. Et je pense que ça doit s'accompagner d'une remise en question, notamment, et d'une prise de conscience de où je m'adresse, de quelles paroles je m'adresse, comment je me situe dans la société, notamment parce qu'en France, on a tendance à être très orgueilleux, à dire qu'on est le pays des droits de l'homme, alors que je rappelle que c'est l'Iran hein, qui a inventé la première charte des droits de l'humain il y a plus de 2500 ans déjà. Donc voilà, je pense que c'est important, en fait, quand il y a un sujet qui est d'actualité, d'en parler sur les réseaux sociaux, c'est très important, mais pour moi, ça doit toujours s'accompagner de pourquoi j'en parle et qu'est-ce que ça peut me faire réfléchir à moi-même, je veux dire, de façon un peu plus profonde que juste poster une image noire de soutien, quoi. Ça doit être l'occasion en fait d'une remise en question individuelle de ses propres biais.
Soutenir les Iraniennes, c'est peut-être aussi et avant tout les comprendre et soutenir leur production artistique et culturelle. Hassal Bagheri, vous êtes aussi, enfin vous êtes spécialiste aussi de cinéma iranien. Est-ce que vous avez des recommandations d'artistes ou de films justement à nous donner pour mieux saisir ce qui se passe en ce moment?
Alors des films, il y en a beaucoup, donc vous imaginez bien. Ils sont pas tous malheureusement distribués en France ou sous-titrés, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, la plupart des films iraniens qui sortent en France font partie du cinéma indépendant iranien qui ont toujours fait partie en fait de ce mouvement de résistance. Bon, après, il faut savoir que le cinéma iranien est toujours derrière la société. Il est jamais devant parce qu'il y a notamment la censure et donc il peut jamais aller en fait aussi loin que la société. Elle peut y aller. Vous voyez ce que je veux dire. Néanmoins, les films d'Asghar Faradis sont des films extrêmement intéressants pour montrer la dichotomie du couple homme-femme, la dichotomie entre modernité et tradition dans la société iranienne, des trentenaires, etc. Et il y a un film qui est quasiment pas vu, mais il est sous-titré, il existe en France, donc j'invite tout le monde, parce que c'est très actuel, ça date de 2016, ça s'appelle Hair, donc ça veut dire cheveux, de de Rafferty, si je me trompe pas. Et en fait, c'est un film extrêmement intéressant parce que ce sont des jeunes sportives qui font du karaté et elles sont sourdes et muettes. Et donc, en fait, elles doivent aller à aller à l'étranger pour leur sport et le ministère etc. en fait leur pose énormément de problèmes à cause de leurs vêtements. Il faut que le cou soit protégé. Il faut pas qu'on voit si on voit ça. Et donc pour le karaté c'est compliqué. Et finalement à la fin en fait on voit une forme de contestation où ces femmes muettes en fait enlèvent le voile et se rasent les cheveux et commencent à en fait péter les plombs d'une certaine manière. C'est très prémonitoire, comme on peut dire en 2016, je dirais.
Est-ce qu'il faudrait créer ou essayer de créer ou rejoindre celles qui sont peut-être déjà en train de la créer, une internationale féministe ?
Oui, ouais. C'est mon rêve. Vraiment, ouais. j'aimerais beaucoup qu'il y ait une internationale féministe. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on sent comme un malaise des fois dans les milieux féministes qui part d'une bonne intention. Hein. C'est celle d'éviter justement les travers qu'on a eu avec ce qu'on appelle l'universalisme et qui s'est transformé en une façon d'imposer un paradigme d'émancipation à toutes les femmes du monde entier en prétendant que c'était le bon, mais d'un point de vue eurocentré tout simplement. Et du coup, il y a un peu un malaise vis-à-vis de ça, mais je pense que c'est très important, en prenant conscience de ces biais, de la place qu'on a dans le monde, et sans vouloir imposer un modèle d'émancipation aux autres femmes du monde entier, d'essayer de nouer des liens entre les peuples, entre les personnes qui se battent, et entre les woke, entre guillemets, du monde entier, pour se soutenir, et parce que je pense réellement que ce qui se passe en Amérique du Sud, quand il y a une victoire féministe, c'est une victoire féministe pour nous. Quand nous, il y a une victoire, c'est une victoire féministe pour les femmes en Iran. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'important à se soutenir les unes les autres en respectant qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes modèles et pas les mêmes désirs forcément.
Assal Bagheri.
D'ailleurs, du coup, j'ai envie vraiment de profiter en fait de cette tribune-là pour en fait poser la question concernant ce soulèvement iranien. Où sont les féministes françaises, en fait ? Où sont les féministes françaises ? Moi, je ne les entends pas, je ne les lis pas assez, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage. Tous les journaux féministes, Gender Studies, etc., en fait, on ne les entend pas. Et c'est vrai qu'on a du mal à les trouver, à aller chercher leurs paroles. Donc, je les interpelle de cette tribune-là. Où est-ce que vous êtes ? Et est-ce que cette question de voile pose tellement problème en France, c'est tellement franco-français que vous n'arrivez pas à vous situer par rapport à ce soulèvement en fait iranien.
Vous croyez que c'est ça, Léane, vous qui êtes plus spécialiste du féminisme ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles se sont vraiment moins exprimées que sur la guerre en Ukraine, par exemple ?
Moi, ce que j'ai pu regarder sur les réseaux sociaux, j'ai quand même vu une forte mobilisation. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les universités au sens large, où moi, je suis dans mon microcosme et j'ai l'impression, oui, quand même, que les féministes en ont pas mal parlé, mais je sens quand même qu'il y a un malaise. Et en fait, ce malaise, je pense qu'il peut être très vite, justement, arrêté si on dit, mais en fait, voilà, là, ce qui se passe en Iran, c'est des femmes qui se battent contre l'extrême droite dans leur pays et elles se battent pour que les femmes aient le choix et elles sont dans un combat qui est aussi antiraciste puisque, encore une fois, on le dit, elles se battent aussi pour les communautés kurdes. Du coup, ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens, de ne pas les soutenir et ne pas être à fond derrière parce qu'on a nos problématiques perso en France et au contraire, ne pas le faire, c'est encore une fois tourner autour de son petit nombril et ne voir que ses problèmes dans son pays et donc c'est encore une fois hyper égocentrique. Mais après, voilà, j'ai quand même... je nuance parce que j'ai vu quand même pas mal de gens en parler. Beaucoup de personnes ont relayé les appels à manifester, etc. Donc voilà, mais c'est dans mes sphères.
Alors très concrètement, peut-être pour conclure cette conversation, récapitulons. Si on veut donc soutenir les Iraniennes, ce qu'on peut faire, c'est, vous le disiez Suzanne, il faut quand même diffuser sur les réseaux sociaux, même si ça paraît anodin. C'est bien ça. On peut soutenir, alors ça peut paraître lointain, mais quand même en consultant les œuvres littéraires, cinématographiques, etc., en se rendant à des prochaines manifestations. On va essayer de voir s'il y a des dates et les mettre en description de cet épisode. Est-ce qu'il faut donner de l'argent à des associations ?
C'est vrai qu'on m'a posé la question il y a quelques semaines. Une amie m'a dit « Ah, oui, je suis à fond derrière les femmes iraniennes. Où est-ce que je peux donner ?» Et sur le coup, quand elle m'a demandé ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Enfin, je me suis dit, bah là, il n'y a pas tellement de place aux dons financiers. On est dans le relais d'infos, dans l'indignation, dans la prise de parole, l'écriture, la tribune. Et sur le coup, je lui ai dit, bah non, viens au manif, partage, mais non, il n'y a pas d'argent à donner. Et puis maintenant, avec du recul, je pense qu'effectivement, il faut se pencher sur la question, parce qu'en plus, l'Iran est un pays où il y a beaucoup de pauvreté. Les femmes sont souvent très démunies. Il y a beaucoup aussi de prostitution forcée, de problèmes de drogue dans la jeunesse, qui est vraiment ravagée aussi par l'héroïne. Il y a pas mal de documentaires, d'ailleurs, sur Netflix en ce moment, sur l'Iran, la prostitution en Iran, les femmes en Iran, qui montrent la détresse financière et la misère qui court. Et si on fait un pas de côté par rapport à la question des femmes, de manière générale, oui, si on donne à des associations iraniennes, c'est toujours positif. Après, il faut faire attention à quelle association on donne pour éviter la récupération par le régime, justement.
Assal Bagheri, je vous voyais hocher la tête.
Oui, il faut faire attention. Pour l'instant, par exemple, en France, on ne sait pas trop, on ne s'est pas vraiment organisé autour des questions d'argent. On sait qu'en fait, donc il y a un monsieur qui s'appelle Ahmed Esmaïlion qui est au Canada, donc qui est maintenant qui porte beaucoup en fait la voix de la diaspora iranienne. Donc moi je le connais pas personnellement, mais en tout cas je suis son Instagram, j'essaie de voir ce qui se passe quand il fait des appels à manifestation, je le suis et je pense que lui il est dans un mouvement plus large et je pense qu'il faudra aller suivre par exemple ce monsieur-là pour voir si il faut donner de l'argent quelque part, etc. Et faire voilà, moi aujourd'hui par exemple je donnerai pas l'argent à n'importe qui, il faudrait vraiment voir qu'est-ce qu'on fait et
à qui vous donnerez. C'est trop tôt pour identifier à qui donner
oui,
de l'argent.
Oui, je pense que vous dites. Tout ouais. À fait, je pense que c'est trop tôt là en ce moment. Je pense que le plus important, comme a dit aussi
Suzanne,
il faut relayer l'information, il faut soutenir, ne pas laisser estomper en fait les informations, ne pas oublier en fait cette jeunesse qui meurt en fait dans les rues. Ça, je pense que c'est le plus important. Et aussi demander aux dirigeants européens, à notre dirigeant en France, en fait, de faire attention, de voir. Vous savez, ça a été vraiment très difficile pour nous franco-iraniens en fait, ou des Iraniens qui vont en France, de voir au moment où Mahsa Amini était tuée, Macron en fait, aller donner la main au président iranien à l'ONU. Ça nous a fait mal au cœur. Donc, c'est vrai que lui, en fait, c'est un politicien, je le comprends. Néanmoins, je pense que parfois, il faut penser aussi au peuple oppressé et ne pas toujours penser en fait au pétrole ou à ceux qui sont derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que chaque pays doit penser d'abord à ses profits, bien évidemment. Néanmoins, en fait, il faut essayer aussi de ne pas être, en fait, amis avec les assassins des peuples. Et il ne faut pas être amis. C'est impossible, en fait, qu'un pays aussi démocratique, laïque et aussi important que la France, c'est ce pays qui en tout cas, m'a servi de guide pour apprendre, en fait, à devenir quelqu'un de laïque, une femme indépendante, puisse en fait être complice d'un président en fait qui assassine les gamins de 15 et 16 ans. C'est impossible.
Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour cette conversation très très intéressante. Je rappelle le nom de votre livre, Suzanne Azmaye, qui s'appelle L'Interrogatoire, qui est sorti il y a quelques semaines, je crois, que si je dis pas n'importe quoi. Merci donc d'avoir été avec nous. Merci à Charlotte Bex, notre chargée de production. Et un grand merci à Elisa Grenet, notre réalisatrice. À très vite les amis.
On peut plus rien. Bon.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.